Bienvenue pour cette nouvelle émission. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Et je vous propose cette semaine de parler de la vie de Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI en 2005. La semaine dernière, nous avions évoqué la vie de Joseph Ratzinger, de sa naissance en Allemagne en 1927, jusqu'à ses années romaines auprès du pape Jean-Paul II, pour essayer de le replacer aussi dans le contexte intellectuel et spirituel de l'Europe au XXe siècle. Et nous allons cette semaine évoquer donc ce pontificat extrêmement important pour l'Église et pour le monde, et d'essayer de voir aussi comment celui-ci a été abordé. Et pour en parler, je reçois cette semaine le père Clément Humbert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes curé de la paroisse francophone de Vienne et vous avez traduit la biographie de Benoît XVI, biographie de Peter Sivald, consacrée à Benoît XVI, dont le tome 1 est paru aux éditions Cora et le tome 2 paraîtra à l'automne 2022, ce qui permettra aux lecteurs francophones d'accéder à cette biographie. Peter Sivald est un de ceux qui connaît le mieux Joseph Ratzinger. Ils se connaissaient dès les années 1980. Ils ont beaucoup collaboré ensemble et cette biographie est l'ouvrage le plus important. Alors, en 2005, après de très nombreuses années de collaboration avec Jean-Paul II, à la mort du pape, Benoît XVI est persuadé qu'il va pouvoir prendre sa retraite, retourner en Allemagne, enfin c'est ce qu'il espère, retourner en Allemagne, jouer au piano et lire Saint-Augustin, c'est un petit peu le programme qui s'est fixé. Il avait d'ailleurs proposé sa démission à plusieurs reprises, toujours refusée par Jean-Paul II, et à sa surprise, il est finalement élu pape de manière d'ailleurs très rapide. Le conclave a duré très peu de temps. Pourquoi finalement lui était-il convaincu que sa carrière était terminée, il allait prendre la retraite, il avait 78 ans, donc c'était tout à fait légitime, et pourtant c'est lui qui a été choisi. Et finalement ça paraissait être une évidence que ce soit lui qui soit choisi après Jean-Paul II.
Ça paraissait une évidence à beaucoup de personnes, effectivement, notamment plusieurs proches de lui. Il est fait mention du cardinal Meissner, qui était son successeur à Munich, qui lui a dit qu'il fallait s'y préparer et qu'il devait accepter. Lui semblait tomber des nues, effectivement. Peut-être que cela s'explique par le fait que Benoît XVI n'est pas un politique. Ça lui a été reproché, peut-être que parfois il a manqué de prudence, il aurait dû mesurer tel ou tel propos, mais ce n'est pas comme ça qu'il voyait sa fonction, ni comme préfet et ensuite ni comme pape, de sorte que effectivement, il avait le sentiment d'avoir rempli sa fonction, d'avoir rempli son service. Il était déjà d'un âge avancé, 78 ans, donc il était tout juste encore parmi les cardinaux électeurs. Et donc, il s'imaginait, effectivement, étant relativement fatigué, c'est pas quelqu'un d'une très bonne santé, pouvoir repartir en Bavière, notamment parce qu'il avait aussi à l'esprit une chose, hein, comme je vous le disais, il a conscience de ce qu'il a à faire, de ce qu'il a à donner, et il lui manquait une chose à faire, c'était rédiger son Jésus de Nazareth, qui finalement sortira alors qu'il est pape, mais donc, de fait, il ne se voyait pas devenir pape. Il a, ceci dit, changé très vite, c'est-à-dire qu'il a obéi. Tout simplement, il a vu que c'était la réalité, il a vu que c'était ce qu'il lui demandait l'Esprit-Saint, il a prié et il n'a pas tergiversé ce qu'il dit bien justement dans cette biographie.
Vous évoquez le livre de Louis de Nazareth, c'est pas véritablement une biographie, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la semaine dernière, vous évoquiez le fait que Ratzinger était un homme qui aimait le débat intellectuel et la réflexion intellectuelle. Or, il a signé ce livre du nom de Joseph Ratzinger et non pas de Benoît XVI pour montrer que ça n'avait pas de valeur magistérielle et donc que ce livre pouvait être critiqué au même titre que n'importe quel écrit d'un théologien ou d'un historien. Et autre chose aussi assez surprenante, alors que c'est un livre en trois tomes, certains tomes d'ailleurs sont assez épais, ça a été un très grand succès de librairie. Et ça a été beaucoup vendu et beaucoup lu, ce qui montre que son audience allait au-delà du cercle catholique ou au-delà du cercle intellectuel. C'était aussi lu par des gens qui n'étaient pas catholiques et qui n'avaient pas forcément d'appétence pour la pensée de Ratzinger ou pour le débat intellectuel qu'il voulait semer?
Je pense tout d'abord qu'il a été bien accueilli parce qu'il l'a présenté, comme vous l'avez bien dit, humblement. La préface, il a ces mots très touchants. Il dit « Je l'ai écrit comme Joseph Ratzinger pour me prêter à la critique. La seule chose que je demande au lecteur, c'est de me faire la bienveillance de lire avec bienveillance. Voilà, faites-moi le crédit de votre bienveillance. Après, je suis ouvert à toutes les critiques. » L'autre raison pour laquelle ce livre a été bien accueilli, c'est parce que effectivement, il propose une histoire de Jésus, une réflexion sur Jésus qui est au carrefour de beaucoup de disciplines, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des exégètes, à des universitaires de nouveau, hein, il n'a jamais abandonné le monde universitaire, tout en proposant son regard de foi. Donc l'épaisseur de sa pensée intellectuelle, sa propre piété, et en même temps tout l'effort intellectuel, philosophique, théologique, historique. Hein, son idée était de dire « je voudrais permettre dans ce livre de réconcilier le Jésus historique du Messie des chrétiens, qui dans l'exégèse moderne souvent est un peu dissocié, et dire ma tentative en tant que croyant est justement de reproposer une lecture qui les unifie. »
Alors Ratzinger, Benoît XVI a été notamment célèbre pendant son pontificat pour les grandes conférences ou les grands discours qu'il a donnés. Il y a eu celui des Bernardins à Paris, il y en a eu un à Berlin, au Parlement de Berlin, celui de Westminster également. À travers ces discours, on voit qu'il définit aussi une idée de l'Europe. Il se fait une idée assez élevée, assez importante, dans le sens de la responsabilité de la mission européenne et de ce que l'Europe peut apporter à la culture mondiale, et on voit à travers ses discours qu'il a aussi voulu avoir une véritable réflexion sur la politique, sur le lien entre culture et politique. Et c'est quelque chose qui peut être un des messages principaux qu'il a voulu donner au cours de son pontificat.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant finalement dans ses réflexions, Peter Sewald dit effectivement que Benoît XVI est selon lui le plus grand européen. Ce qui est intéressant, ce sont des réflexions qui consistent à approfondir une identité. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une mission, un rayonnement, mais qui consiste d'abord à toujours se ressaisir vraiment de cette réalité qui fait l'Europe que nous connaissons dans la beauté de sa culture, de son agriculture, de son histoire, de tous ses développements. Et il propose effectivement d'être fidèle à ce qui a fait émerger l'Europe pour prétendre effectivement à un rayonnement qui n'est pas simplement le rayonnement de la foi, mais qui est le rayonnement de toute une culture. Comme vous l'avez dit, le discours des Bernardins mentionne la naissance d'une civilisation européenne à partir de l'expérience des moines, des bénédictins qui petit à petit ont vu se développer autour de les bibliothèques, les cités, les champs, et c'est ce qui fait effectivement ce que nous sommes aujourd'hui.
Quelle orientation a-t-il voulu donner à son pontificat? Succéder à Jean-Paul II n'est pas facile, c'est le pape qui a eu le plus long pontificat, il y a eu Pie IX avant lui, mais il a eu quand même un pontificat de 27 ans, extrêmement long, extrêmement riche et chargé en événements, la chute du mur de Berlin, etc. Jean-Paul II a une stature énorme. Lui succéder, même quand on a la stature intellectuelle Joseph Ratzinger, ce n'est pas simple. Est-ce qu'il s'est vu uniquement comme un héritier qui doit continuer et faire une sorte de pontificat bis en plus court, ou est-ce qu'il a voulu donner une touche particulière en disant « non, c'est le pontificat de Benoît XVI et non pas celui d'un Jean-Paul III, en quelque sorte ?»
C'est une bonne question. Je pense qu'il ne s'est pas posé la question lorsque son pontificat a changé, mais a posteriori, il qualifie son pontificat comme le dernier d'une époque et le premier d'une nouvelle, c'est-à-dire qu'il a le sentiment d'être effectivement au seuil de quelque chose de nouveau. Il avait conscience que le géant qui était avant lui était un géant, et donc il ne voulait pas du tout entrer dans une comparaison. Il avait aussi conscience qu'il était au service de ce géant, comme il l'avait été durant sa vie, il était au service aussi de tout l'héritage qu'il avait laissé. mais il avait aussi conscience de ce que Dieu lui demandait, c'est-à-dire de ce qui lui était demandé avec tout ce qu'il est, avec son talent, avec son parcours, etc. Et notamment toute cette dimension de l'enseignement qu'il a voulu donner à son pontificat à travers des catéchèses que les gens ne se lassent pas de relire sur l'histoire de l'Église, sur la parole de Dieu, sur les grandes vertus théologales, l'espérance, la charité, la foi n'a pas été terminée à temps et elle a été signée par son successeur, le pape François. Mais donc, je pense que, de nouveau, cette attitude humble d'avoir été à côté d'un grand homme qui était son ami et qui était en même temps pour lui vraiment un maître et un saint, d'ailleurs il a tout fait pour que sa béatification et sa canonisation se fassent rapidement, et puis en même temps, la certitude que si Dieu l'avait appelé lui, alors il avait quelque chose à donner lui.
Et il y a eu cet événement qui clôt son pontificat et qui est absolument... extraordinaire au sens propre, qui est sa renonciation, puisque il allait de soi que le pape mourrait pape, et le 28 février 2013, la renonciation est effective le 28 février 2013, mais quelques semaines avant, le 11 février, il annonce sa renonciation en latin, donc ce qui fait que le texte d'ailleurs n'a pas été compris tout de suite par les cardinaux qui assistaient à cela. Et cet homme que l'on présentait comme conservateur ou comme peut-être fermé à certaines nouveautés, par sa renonciation a posé une nouveauté extrêmement importante. Alors c'était prévu par le code de droit canonique, donc c'était possible. C'était possible, mais ça restait inimaginable. Et là, il a ouvert quelque chose de véritablement nouveau.
Tout à fait. Il avait été sensibilisé à cette question par le fait que son prédécesseur, Jean-Paul II, lui avait demandé de travailler sur un document traitant de cette question. Parce que Jean-Paul II s'était posé la question dès le moment de son attentat. Que se passe-t-il si je ne suis plus en mesure, intellectuellement, physiquement, d'exercer mon pontificat ? Force est de constater qu'il n'a pas utilisé ce papier, mais la question était quand même en suspens. Benoît XVI déjà a confié à Peter Sewald en 2016, lors des dernières conversations, que c'était une chose qu'il avait envisagée avec un certain réalisme, avec la liberté de celui qui se pose les questions intellectuellement. Il a une intelligence capable d'envisager tous les paramètres en même temps, pose la question devant Dieu, et lorsque la question est résolue, intellectuellement et spirituellement, alors, d'une certaine façon, il n'y a pas à hésiter. Donc, c'est vrai que c'était tout à fait révolutionnaire, pourrait-on dire, et en même temps, il la présente avec la simplicité qui est la sienne, en disant, le concile nous a offert une nouveauté avec les évêques émérites, le pape émérite me semble tout finalement une suite logique de ce que le concile a proposé, ce qui montre encore une fois combien il est toujours très soucieux de défendre cette herméneutique de la continuité avec toutes les nouveautés qu'elle apporte en même temps.
Il y a eu, parmi les grands traits de son pontificat, la volonté aussi de discuter avec les autres les églises chrétiennes. En lui-même venant d'Allemagne, évidemment, la communauté protestante est très importante, même si en Bavière, c'est essentiellement catholique, mais également le dialogue avec les orthodoxes. Alors, il n'y a pas pu y avoir de rencontre avec le patriarche de Moscou, comme il espérait. C'est François qui, pour la première fois, a pu faire cette rencontre à Cuba. Mais, en tout cas, il y a eu une avancée importante et une volonté d'inclure ces autres communautés ecclésiales dans un dialogue constant.
C'est notamment lié au fait que dans la pratique de du pontificat, de son rôle de pape, Benoît XVI, aussi bien auprès de ses collaborateurs qu'à l'extérieur, passe pour quelqu'un qui n'en fait pas trop, on pourrait dire. Le mot est un peu exagéré, mais il est un pape qui n'est pas celui qui fait le chef en permanence. Il est un pape qui a conscience d'avoir reçu un mandat, mais en même temps aime discuter, aime écouter, aime rencontrer. Et donc, les interlocuteurs auxquels il propose ce dialogue, qui est quelque chose aussi dont il hérite en étant allemand, comme vous l'avez bien dit, en Allemagne, le dialogue le dialogue œcuménique est une évidence, puisque c'est une expérience quotidienne, c'est une expérience des familles, etc. Alors, il s'y attelle avec beaucoup de soin et il reçoit un accueil toujours très, très positif de la part des différentes personnes avec lesquelles il discute, parce que c'est un interlocuteur humble, affable, qui écoute, qui sait valoriser celui qui est en face de lui. Et donc, effectivement, même si parfois les médias ne s'en sont pas fait écho, tous les interlocuteurs d'autres confessions avec lesquels il a mené un dialogue l'appréciaient particulièrement.
On évoquait la semaine dernière l'amour de la musique pour Ratzinger et la place importante que ça a eu dans sa vie. En lié de manière indirecte à la musique, il y a aussi des questions liturgiques. C'est que quelqu'un qui avait une grande conscience de l'importance de la liturgie et le fait qu'il fallait aussi avoir une liturgie de qualité pour satisfaire les âmes. Et son pontificat est marqué aussi par cela, par une volonté d'ailleurs dans la continuité du Concile Vatican II, de restaurer la dimension liturgique de l'Église.
Oui. Si nous devons revenir un peu en arrière, effectivement, une chose qui lui a un peu déplu ou il a senti que ça n'allait pas forcément dans le bon sens lors du concile, c'est cette question de la réforme liturgique. Il n'en avait pas vraiment vu l'intérêt. Et effectivement, lorsque, avec le temps, il a pu constater, comme nous l'avons constaté nous en France, en Allemagne, le fait que la liturgie était devenue un espace d'auto-expression, c'est-à-dire chaque prêtre, chaque laïc recevait tout d'un coup la possibilité de la modeler un peu à sa guise. Alors il disait, nous perdons quelque chose, nous sommes livrés au subjectivisme, et qui du coup est lui-même un peu dépendant des modes, des mentalités, parfois d'une position aussi idéologique ou même politique. La liturgie qui nous a été donnée par l'Église est justement quelque chose qui remonte dans le temps à très loin, et cette continuité doit être donnée. C'est la raison pour laquelle il a proposé dans un motu proprio que le rite d'avant le concile, qui n'a jamais été complètement abandonné, soit redonné, disons, qu'il soit redonné la possibilité aux fidèles et aux prêtres de célébrer dans cet ancien rite.
Avec l'idée aussi que la liturgie doit être le lieu de l'unité et de la paix, alors qu'elle était devenue un lieu de guerre et de conflits politiques même, elle a été politisée, alors que ce n'est pas son rôle ni sa fonction.
C'est sûr. Je pense qu'il était moins sensible, la politisation de la liturgie est peut-être moins présente en Allemagne, par exemple, qu'elle ne l'est en France. Mais il est certain que, comme quand il fait un discours en latin, il a le sentiment qu'il y a une unité qui était donnée et qui a été un peu perdue par cette tentative de la réforme. Il y a aussi cet ouvrage qu'il a rédigé, il l'a signé. Il a redonné le même titre que l'un de ses grands maîtres, L'Esprit et la Liturgie. Ça avait été un livre écrit par Romano Guardini, un théologien qu'il avait beaucoup lu étant jeune, où il redonne finalement les critères de la liturgie, qui montrent une nouvelle fois qu'il n'est pas celui qui va absolument défendre des formes anciennes, mais qui donne les raisons qui permettent de vivre la liturgie, qui permettent aux âmes d'être nourries dans la liturgie. Donc il y a la question du chant, de la musique, la question du silence, la question de la lumière, de l'orientation, enfin voilà, des questions qui reviennent aussi à une expérience très existentielle de l'homme. Et bon, c'est un livre qui est réédité, qui est un vrai régal, qui est extrêmement éclairant, un peu comme les Jésus de Nazareth, quelque chose qui est ouvert un peu à toute personne, y compris des non-chrétiens. Alors ce livre sur la liturgie est tout à fait accessible.
On disait au début de cette émission que Benoît XVI n'est pas un politique et qu'il n'a jamais cherché à mener carrière. Ça lui a peut-être aussi porté un peu préjudice au cours de son pontificat. On a pu voir que autant Jean-Paul II s'était entouré d'hommes très très doués dans les différents postes clés, Autant on a pu voir un certain flottement parfois à Rome dans certains éléments importants et puis des polémiques un peu stériles qui ont suivi, par exemple après le discours de Ratisbonne sur la question de la violence et de la religion. Peut-être que c'est ça aussi qui a manqué un petit peu à Benoît XVI, d'avoir un peu de sens politique de temps en temps pour mettre des gens un peu plus adéquats au poste essentiel.
C'est ce que défend en tout cas Peter Sewald. Il a manqué de clairvoyance dans le choix de ses collaborateurs et puis il a manqué parfois aussi de fermeté. C'est-à-dire que lorsqu'il a choisi un collaborateur, alors il ne les conduit plus, il le garde. Il est très fidèle. Alors certains diraient c'est de la faiblesse. Lui ne voyait pas les choses de cette façon. Et tant et si bien que lorsque, par exemple, des choses sont reprochées à certains de ses collaborateurs, alors il a tendance à prendre sur lui, à vouloir assumer des fautes qu'il n'a en réalité pas commises. Donc effectivement, il a objectivement manqué d'esprit politique, mais cela fait aussi partie de cette personnalité, un homme qui sentait que ça n'était pas son espace. Et donc il a, dans sa façon même de gérer le personnel du Vatican, vécu d'une façon assez, je dirais, évangélique, c'est-à-dire il s'est laissé aussi abîmer, trahir, blesser par ceux qui pourtant sont censés être les plus proches et les plus fidèles collaborateurs.
Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, enfin déjà au moment où il devient pape, il a une œuvre derrière lui, beaucoup écrit aussi en tant que pape, des textes, des discours, des homélies, des encycliques. Quel est d'après vous le texte ou les deux textes qui sont véritablement majeurs pour son pontificat et qui le résument et dont on peut supposer qu'ils resteront dans l'histoire dans 40 ou 50 ans?
Alors il y a, comme vous l'avez dit, le livre Jésus de Nazareth qui est présenté par un pape qui ne le signe pas comme pape, qui propose un nouveau regard sur ce Jésus de Nazareth qui, à mon avis, fera date. Ensuite, en tant que pape, il y a ces textes encycliques qui sont vraiment les textes majeurs. L'encyclique, la première qui est parue sur la charité, qui est un véritable bijou qui revisite ce mot de l'amour qui a été si galvaudé avec là aussi beaucoup beaucoup de justesse, avec un soin, une plume magnifique et qui a été d'ailleurs salué vraiment comme un texte splendide. Ce qui est certain aussi, c'est que Benoît XVI, lorsque nous disons Benoît XVI, lorsque nous disons Ratzinger, il y a le mot espérance. Le mot espérance, c'est vraiment un mot qui revient, et d'ailleurs sa deuxième encyclique y est consacrée. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup préoccupé de ce que nous appelons les fins dernières, donc la question du salut, la question de l'eschatologie, et pour redire que, quelle que soit finalement la position de l'homme, quelle que soit la position de l'humanité, quel que soit l'état du monde, il est toujours habité d'une immense espérance. La langue française a la chance de pouvoir distinguer l'espoir et l'espérance, mais lui-même connaissant bien la langue française, il en a tenu compte, mais pour les lecteurs dans différentes langues, alors il a, dans son encyclique, fait la distinction entre la petite espérance, les petites espérances et la grande espérance, parce que le mot espoir n'existe pas forcément dans les autres langues, et c'est, me semble-t-il, un mot qui le qualifie.
Il y a un autre élément qui qualifie son pontificat, c'est le rapport entre la raison et la foi. Il a toujours voulu montrer que la foi avait besoin de la raison et que la raison avait aussi besoin de la foi et que quand on séparait les deux, ça aboutissait à des drames. Lui ayant connu le nazisme et puis ayant quand même été dans un pays qui a été coupé en deux par le communisme, il a évidemment eu l'expérience de ces régimes totalitaires de manière directe. Et puis, pendant son pontificat, c'est la question de l'islamisme, du djihadisme, donc des choses dont il s'est dit que là, pour les combattre, il fallait non pas opposer raison et foi, mais au contraire tenter de les réconcilier et de les associer.
Oui, je crois que vous avez dit l'essentiel, c'était quelque chose qu'il habitait beaucoup. Il se sentait serviteur de la vérité, c'était d'ailleurs son motto comme évêque puis comme pape, la raison, il n'avait pas peur de la raison. C'est la raison pour laquelle il était ouvert comme professeur, comme intellectuel à la discussion. Et en ce sens, il s'est fait aussi l'interprète et le successeur, le serviteur de la pensée de Jean-Paul II, qui, avec un texte extrêmement important, Foi et raison, une encyclique quelques décennies auparavant, avait lui aussi voulu remettre sur la table un sujet qui finalement est devenu compliqué aujourd'hui, puisque on a tendance à considérer que la raison s'oppose à la foi, c'est-à-dire qu'on a fait une définition de la raison qui aurait tendance à l'opposer à la foi.
Dernière question, parce que vous avez traduit la biographie de Benoît XVI, comment est-ce que s'opère un travail de traduction ? Il y a ce jeu de mots célèbre chez les traducteurs qui est la traduction est un petit peu une trahison, c'est évidemment l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, mais en même temps, il faut aussi que le livre soit agréable à lire, ce qu'il est. Donc il y a cette difficulté à traduire tout en faisant en sorte que ce soit agréable, mais sans trahir la pensée aussi d'un auteur, et ça reste malgré tout un ouvrage d'auteur, même si c'est une biographie.
Tout à fait, c'est une bonne question, c'est un exercice collectif, hein. C'est l'exercice du traducteur et puis de ses relecteurs. J'ai eu la chance d'avoir une équipe remarquable pour m'aider justement à retravailler des phrases, les simplifier, les rendre véritablement compréhensibles, parce que le traducteur les comprend parce qu'il a le texte original, ce qui n'est pas forcément le cas d'un lecteur qui serait en dehors du contexte. C'est effectivement un travail d'interprétation, et c'est en ce sens qu'on peut penser parfois qu'il s'agit de trahir. Je n'ai pas de recette, ce serait très présomptueux de pouvoir dire comment il faut faire, mais c'est sûr que ça a été pour moi une question continuelle, et j'ai reçu beaucoup d'aide pour cela. Et puis c'est sûr que la personne de Benoît XVI que j'ai tellement aimé lire m'a aussi inspiré pour essayer de rendre aussi le style beau et agréable.
Bien, merci beaucoup d'être venu à notre micro et donc d'avoir traduit pour les lecteurs francophones la biographie de Peter Sival de Benoît XVI, Une vie, qui est parue aux éditions Cora. Le tome 1 est en librairie et le tome 2, si tout va bien, sera en librairie à l'automne 2022, ce qui permettra comme ça aux lecteurs d'avoir accès à cet ouvrage qui est fondamental. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.